Voici une question dont la réponse devrait sonner une alarme dans tous les cœurs. Qu'est-ce qui se produit quand on rejette Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner un grand avertissement par leur réponse, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a des questions très sérieuses à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Mais combien les réponses pourront être bénéfiques pour chacune de nos vies? J'ai bien hâte d'entendre la réponse à chacune des questions que voici. Sommes-nous à l'abri du jugement de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on est soit condamné ou racheté? Qui est le berger d'Israël? Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il tant pleuré au cours des siècles? Pourquoi Dieu a-t-il permis la captivité de son peuple? Qui est à la droite de Dieu? Est-ce que Dieu veut nous bénir? Qu'est-ce qui se produit quand on rejette Dieu? Restez là, le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, j'ai hâte d'entendre les réponses que tu vas nous donner aujourd'hui. C'est bon de savoir par la foi que c'est vraiment toi qui parles à nos cœurs par ta parole, par la bouche de ton serviteur. Alors touche nos cœurs aujourd'hui, transforme-nous par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, le psaume 79 est une prière. Ce n'est pas une prière pour nous, mais pour la nation d'Israël. Certains commentateurs placent ce psaume au moment de la captivité babylonienne. Ils s'appuient sur la similarité entre les versets 6 et 7 du psaume 79 et Jérémie chapitre 10 verset 25. Voici ce que le psaume nous dit. « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. » Le psaume 79, versets 6 et 7. Maintenant, lisons Jérémie chapitre 10, verset 25. « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. » Car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Par contre, d'autres commentateurs, dont J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons et traduisons les textes, distinguent une saveur prophétique dans ce psaume. Selon McGee, il peut s'appliquer à la captivité babylonienne, à l'époque des Maccabées et à la grande tribulation. Dans toutes ces périodes, le temple fut détruit ou profané. Chers amis, débutons notre lecture du psaume 79, verset 1er. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Avant la captivité babylonienne, les faux prophètes proclamaient que Dieu ne permettrait pas que le temple soit détruit et que le peuple soit emmené en captivité. Mais cela se produisit, y compris la destruction du temple. Cela se produisit à quelques reprises, et le peuple implorait Dieu afin qu'il les secoure. Dans la série de psaumes que nous étudions présentement, dans la section correspondant au livre du Lévitique, c'est le temple ou le sanctuaire qui est central. Verset 2. « Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs, en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. » Nous ne sommes pas à l'abri du jugement. Le peuple d'Israël comprend difficilement que Dieu ait permis ce massacre. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait que cela leur arrive? De faux prophètes proclamaient au nom de Dieu que cela ne pouvait pas leur arriver. Quoique Jérémie eût fidèlement averti la nation du jugement de Dieu, il fut discrédité et accusé de traîtrise. Le peuple ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu ne l'a pas protégé. un certain nombre de Juifs sont devenus athées à cause des événements sous le régime nazi. Ils n'ont pu comprendre les raisons de toutes ces atrocités. Un jugement frappe déjà les églises, parce que nombreuses sont celles qui se sont détournées de Dieu. Cela ira de pire en pire, chers amis. De nombreuses nations furent jugées par Dieu. Nous ne sommes pas à l'abri d'un jugement. Et que dire de ce texte de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, versets 17 à 22? Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Oui, chers amis, nous devons tous craindre les jugements de Dieu. Verset 5 du psaume 79. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Les Juifs prièrent afin que Dieu se calme à leur égard. Ensuite, ils demandèrent pardon pour leurs péchés. Verset 8. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Nous sommes soit rachetés ou condamnés, chers amis. Ils demandent que Dieu pardonne leurs péchés passés, mais comment Dieu s'y prendra-t-il pour effacer leurs péchés? Seulement au moyen de la mort de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus est rejeté par les Juifs ou par les non-Juifs, par les riches ou par les pauvres, par les hommes ou par les femmes, par les gens de n'importe quelle race. Dieu condamne tous ceux qui rejettent son Fils, car c'est le seul et unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Nous devrons tous rencontrer Dieu, soit pour être accueillis en fils rachetés, soit pour être condamnés éternellement. Maintenant, écoutez la plainte du peuple qui souffre. Verset 9. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Les enfants d'Israël se vantaient du fait que Dieu était au milieu d'eux et qu'il les secourait. Dieu ne l'a pas fait à cause de leurs péchés. Et ils sont ridiculisés par les nations. Les païens se moquent d'eux. Observez que ce psaume se termine sur une note de louange. Verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Dans le royaume qui vient, il n'y aura plus de douleur et de pleurs. Dieu sera loué de génération en génération. Dans cette série de psaumes, nous remarquons un fil conducteur, un développement de la pensée prophétique, de la pensée de Dieu. Ce psaume est chanté, accompagné de lys, une sorte de trompette appelée ainsi à cause de sa forme, et c'est une supplication afin que le berger d'Israël guide de nouveau son peuple. Le psaume 80, versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur les lys lyriques, d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Dieu fut toujours le berger de son peuple. Le berger d'Israël est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Cette expression réfère à la marche dans le désert alors qu'Israël était en route vers la terre promise. Yahweh, le berger d'Israël, était leur guide. Josué était le guide humain, mais il agissait sous les ordres du capitaine de l'armée de l'Éternel, toi qui es assis sur les chérubins. Le psalmiste fait appel à Dieu qui rencontrait le peuple par l'intermédiaire du souverain sacrificateur dans le lieu très saint du tabernacle. Au-dessus du propitiatoire, le couvercle de l'arche, il y avait deux chérubins. Verset 3 du psaume 80. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Pourquoi mentionner Éphraïm, Benjamin et Manassé? Si vous lisez dans le livre des Nombres, chapitre 2, versets 17 à 24, vous noterez que ces trois tribus marchaient derrière le sanctuaire vers la fin de la colonne qui était précédée de l'arche, lorsque le peuple se déplaçait dans le désert après la sortie d'Égypte. C'était l'arche qui guidait les enfants d'Israël dans le désert. Tout comme Dieu avait déjà guidé son peuple, celui-ci l'implore de le faire de nouveau. Verset 4. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ô Dieu, relève-nous. Cette prière est répétée à trois reprises dans le psaume, verset 4, verset 8 et verset 20. Elle semble être un mini-refrain. Verset 5. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Du verset 4 à 6, nous avons une note triste, une lamentation. Le psalmiste pense que Dieu est en colère, car il ne répond pas à la prière de son peuple. Verset 6. Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Le rejet de Jésus nous laisse dans les larmes. Ceci est un verset exceptionnel de la Bible. Dieu nourrit et abreuve son peuple de larmes. Ce sont des larmes de souffrance. Aucune nation n'a survécu après avoir souffert comme les enfants d'Israël. La plupart des nations, si elles avaient été traitées comme les Juifs, seraient exterminées et n'existeraient plus. Israël a bu des larmes au cours des siècles. Pourquoi? La nation a rejeté son berger. Lorsque le Seigneur vint vers elle, il a porté ses regards sur Jérusalem et il a pleuré. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Citation de l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Ce texte explique pourquoi Israël a bu des larmes. En route vers le calvaire, Jésus se tourna vers des femmes qui pleuraient dans la foule et il leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Luc, chapitre 23, verset 28. Revenons à notre texte, le psaume 80, verset 8. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. C'est le visage de Jésus qui brille sur le peuple de Dieu. Cette face qui brille, c'est celle du Messie d'Israël, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Oh, trouvons ce texte ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oui, l'Église fait briller aujourd'hui la face du Seigneur Jésus. Voici un autre verset remarquable. Verset 9 du psaume 80. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » Dieu a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a chassé les nations païennes de la Palestine, la terre promise, pour y transplanter Israël, sa vigne. Israël construisit un temple pour adorer Dieu. Puis, des prophètes les avertirent que le temple serait détruit et qu'ils seraient à leur tour expulsés du pays. Pourquoi? Pour la même raison que Dieu avait chassé les nations cananéennes du pays. Israël s'est détourné de Dieu. La responsabilité d'Israël était plus grande que les nations païennes, parce que Dieu leur avait accordé un privilège qu'il n'avait pas accordé à d'autres nations, soit la présence visible de ce grand Dieu. Verset 10. « Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. » Dieu parle d'Israël, la vigne qu'il a transplantée dans la terre promise. Versets 11 et 12. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Donc, nous nous demandons, verset 13, pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis la captivité de son peuple? Pendant des années, Dieu a entretenu sa vigne et l'a entourée d'une clôture. Le peuple a vécu dans le pays pendant plusieurs siècles. Dieu n'a pas permis à aucune puissance militaire du temps de détruire son peuple. L'Égypte est montée contre Israël, a remporté quelques victoires, mais n'a pas détruit la nation. Ce fut aussi le cas avec les Syriens et les Hittites. Cependant, un jour, Dieu a jeté la clôture par terre et il a laissé pénétrer les adversaires de son peuple. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté son berger divin. Le troupeau sans berger est un troupeau dispersé. Verset 18 du psaume 80. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Oui, chers amis, le Messie est à la droite de Dieu. La puissance se trouve à la droite de Dieu. Qui est à la droite de Dieu? C'est le Messie d'Israël. David écrivit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le psaume 110, verset 1er. Le Seigneur Jésus a appliqué ce verset au Messie d'Israël, dans Matthieu chapitre 22, verset 44. Et dans Genèse, chapitre 35, nous avons le récit de la naissance de Benjamin, le deuxième fils de Rachel. Elle donna naissance à ce fils alors que Jacob était en route vers Bethléem, et Rachel appela son fils Ben-Ouni, qui signifie « fils de ma douleur ». Rachel mourut, et Jacob n'acceptait pas ce nom, mais lui donna le nom de Benjamin, qui signifie « fils de ma droite ». Benjamin est un type, une image du Seigneur Jésus qui fut un homme de souffrance, mais qui est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Le Père a dit de lui, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Un jour, il partira de cette position pour revenir régner sur cette terre. Versets 19 et 20. « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Lorsque c'est Dieu qui nous garde par son Fils, nous ne nous éloignons pas de lui. Il relève son peuple et le bénit. Quel merveilleux psaume! Le psaume 81 est une prière qui est la suite appropriée du psaume précédent. Ce psaume est une prière que nous pouvons faire nôtre. Débutons notre lecture. Le psaume 81, les 5 premiers versets. Au chef des chantres, sur la guittite d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. La clé de ce passage est le retentissement des trompettes à la nouvelle lune. C'est approprié puisque la nouvelle lune apparaît avant que se lève le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Malachie chapitre 4 verset 2. Il vient délivrer son peuple. Ce psaume décrit la fête des tabernacles. Israël avait 4 fêtes annuelles, soit la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des prémices et la fête des tabernacles, appelée aussi fête des trompettes. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Nous attendons encore l'accomplissement de ce symbole. Revenons à notre texte, le psaume 81, versets 9 et 10. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. » Le Seigneur leur rappelle les événements passés. Verset 11. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. » Dieu veut nous bénir. Il est vrai que Dieu a fait cette promesse à la nation d'Israël, mais elle s'applique à nous aussi. Dieu nous a délivrés du péché, et il ne demande qu'à nous bénir comme un oiseau nourrit ses petits. Dieu veut nous bénir. Acceptons-le. Verset 12 à 15. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Autrement dit, Israël n'a pas voulu de Dieu. Notez que Dieu ne s'impose pas, ni à nous. Si nous ne voulons pas de lui, il nous livre au penchant de notre cœur. C'est la punition la plus sévère qu'il peut nous infliger. Dieu veut des cœurs qui l'aiment, donc il n'est pas intéressé à nous forcer à le servir contre notre gré. Les gens blâment Dieu pour la souffrance dans le monde, mais en fait, c'est l'humanité qui ne veut pas de lui. On le rejette, on le méprise. Les humains sont livrés au penchant de leur cœur, et nous constatons le résultat. Dieu ne demande qu'à nous bénir, il nous invite à revenir vers lui. Un réveil commence toujours dans notre propre cœur. Les individus viennent au Seigneur et ils deviennent le sel de la terre, la lampe sur la colline pour éclairer le monde. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, le sel de la terre et la lumière qui doit éclairer les gens dans notre entourage. Cela est ainsi parce qu'il donne un cœur nouveau à ceux qui viennent à lui. Il règle le vrai problème de l'humanité qui est le cœur méchant de l'homme. Dieu a promis à celui qui se tournerait vers lui, recevrait par le fait même un cœur et un esprit nouveau. Cette promesse, nous la lisons dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27. Vous pouvez le lui demander à l'instant même, il vous accordera ce cœur et cet esprit nouveau. Préparons-nous pour la prochaine émission, cette fois en lisant les psaumes 82 à 84.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, on a vu aujourd'hui que Dieu ne s'impose pas. Si on ne veut pas de lui, eh bien, il nous livre au penchant de notre cœur. Régent a mentionné que c'est la punition la plus sévère que Dieu peut nous infliger. Dieu veut des cœurs qu'il aime, et c'est pourquoi il ne nous forcera pas à le servir contre notre gré. Oh, mes amis, c'est bien clair que Dieu veut nous bénir, qu'il nous invite à revenir à lui. Et quand on le fait, il nous donne un cœur nouveau. Je suis bien placée pour en parler, parce que je considère qu'avant de connaître Dieu, j'avais un cœur complètement corrompu. Je me plaisais dans le péché. Je vivais dans l'adultère et je considérais que c'était normal de vivre ainsi. J'aimais le plaisir plus que Dieu. Je m'offrais tous les plaisirs imaginables et j'avais les moyens de le faire. Mais j'étais malheureuse. Je croyais que j'étais malheureuse parce que mon amant n'était pas prêt à quitter sa femme pour moi. Je croyais que j'étais malheureuse parce que je n'avais pas la liberté de composer des chansons à mon goût puisque mes producteurs insistaient pour que je compose des chansons simplettes qui plairaient à mon public. En passant, ils avaient tort. Je voulais être honnête avec mon public parce que je l'aimais. Je voulais que mon public me connaisse tel que j'étais réellement et je savais qu'il le pourrait si je chantais ce que je vivais réellement. Mais peu importe, j'étais misérable, malheureuse en amour et je me sentais seule pour vivre tout ça. Mais un jour, j'ai appris que toutes ces choses n'étaient pas réellement ce qui me rendait si malheureuse. J'ai appris que j'étais misérable parce que je ne vivais pas en communion avec mon Créateur, avec Dieu. J'ai appris, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, que c'était mes torts, mes péchés, qui mettaient une séparation entre moi et Dieu, qui me cachaient sa face et l'empêchaient de m'écouter. Et j'ai appris que j'étais une pécheresse. Comme je vous le mentionne si souvent, en citant l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, où il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai appris que les bonnes œuvres, les religions, les philosophies, la moralité et même la sincérité ne pouvaient pas me sauver, me ramener à Dieu. Et enfin, j'ai appris que le remède que Dieu m'offrait pour revenir à lui et goûter sa paix, c'était la croix. Dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 5, il est écrit qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour me libérer, me ramener à Dieu. Mon ami, tout ce que je raconte en ce moment, c'est pour toi aussi. Jésus dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 11 et 12, il dit qu'il est venu dans son propre pays, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Mais qu'à ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, admets ton besoin de recevoir Jésus comme sauveur, comme maître de ta vie. Avoue que tu es un pécheur perdu, séparé de Dieu. Repens-toi, détourne-toi de tes péchés. Crois que Jésus est mort à ta place sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Invite Jésus à entrer dans ta vie par le moyen de son Saint-Esprit afin qu'il règne en toi comme Seigneur. Demande à Jésus de te sauver. Demande-le à Jésus maintenant.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.